Opposer le train à l'avion a sans doute une logique certaines fois. Mais je ne vais pas vous faire un exposé. Votre serviteur a eu la chance de pouvoir interviewer deux éminents spécialistes. L'un que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Michel Polacco, journaliste, expert aéronautique et surtout pilote, de préférence d'hélicoptère mais d'avion également. Et Michel Polacco s'entretenait lors de la seconde fête de l'aviation dans une conférence où le thème était aéronautique vers une autre philosophie, point d'interrogation, avec Raymond Vosner, professeur, ancien professeur de Sorbonne Université à Paris, professeur d'histoire et géographie, et qui a beaucoup planché sur les questions de transport aérien, mais également terrestre. Alors, je vous laisse écouter, c'est un extrait de cette conférence, c'était ce lundi, et vous pouvez retrouver cette conférence sur YouTube, Fête de l'aviation, et sur la page Facebook du Magaéro.
Moi, je vais vous dire, transporter 10 tonnes de batterie au lieu de 10 tonnes de fuel, quand vous arrivez, vous avez consommé votre fuel, si vous avez des batteries, vous avez toujours vos batteries à bord, vos batteries coûtent cher à transporter. Ce n'est pas obligatoirement la solution, l'avion électrique. Il faudra voir l'hydrogène. D'accord, 95% de l'hydrogène produit aujourd'hui dans le monde est produit à partir du pétrole et du gaz. C'est complètement un produit fossile. Si on veut produire de l'hydrogène propre, il faut de l'électrolyse. Il faut l'électrolyser l'eau. Si on électrolyse l'eau, il faut de l'électricité. Si on veut de l'électricité, il faut des sources d'électricité. Alors, il est bien évident qu'on peut utiliser les périodes résiduelles dans lesquelles les éoliennes ou les systèmes solaires produisent de l'électricité qui n'est pas nécessaire au réseau. Mais on ne va pas arriver à produire les 500 millions de tonnes qui sont nécessaires dans le monde pour arriver à faire fonctionner le système de transport aérien. Donc, il va falloir des centrales nucléaires. Et alors évidemment, on ne peut pas être à la fois anti-nucléaire et anti-kérosène et anti-ci et anti-ça. Si vous voulez, il va falloir qu'on arrive à travailler un peu avec nos paradoxes. Et on est noyé dans les paradoxes. Alors, il y a aussi la possibilité d'avions hybrides. Il y en a qui sont en train d'être conçus en ce moment dans le nord de l'Europe, notamment en Suède, qui seront des avions dans lesquels il y aura une partie électrique, une partie thermique. Ça va sans doute fonctionner dans la dizaine d'années qui vient. Pour des avions de 10 à 20 personnes, ça m'étonnerait que ça aille beaucoup, beaucoup plus loin. En tout cas, sauf à faire des progrès vraiment considérables en matière de stockage de l'électricité. La pile à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène, c'est une piste extrêmement intéressante qui marche très bien pour les trains, par exemple. Parce que les trains, quand ils pèsent 60 tonnes ou 70 tonnes, on s'en fout. C'est pas grave de mettre 10 tonnes de plus dans un train. Par contre, mettre 10 tonnes de plus dans un avion, c'est la charge marchande. Vous vous souvenez, Concorde, 200 tonnes, 10 tonnes de charge marchande. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, si vous supprimez les 10 tonnes, vous utilisez l'avion pour transporter l'avion. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, il est bien évident qu'il faut arriver à des bilans énergétiques qui soient raisonnables. Et puis, il y a les sustainable aircraft fuel, les carburants de substitution, qui sont des carburants qui vont quand même produire des rejets. Qui ne sont pas fossiles, qui sont des huiles recyclées, qui sont des produits issus de l'agriculture, des choses comme ça, qui sont une piste intéressante, qui, d'après les constructeurs de moteurs, donc d'avions, sont dès à présent utilisables à 50% dans les avions de ligne. Alors ça, déjà, c'est une piste qu'il faut non pas fouiller, mais qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, ça veut dire qu'il faut organiser la production et la distribution de ces produits sur les aéroports. Parce que vous pouvez avoir, si vous avez des avions et que vous ne pouvez pas mettre le carburant dedans, aucun intérêt. Donc, il faut que sur les aéroports, il y ait un système de distribution. Donc là, il va falloir, et il y a des gens qui travaillent en France et à l'étranger, et il va falloir s'organiser pour pouvoir distribuer des sustainable fuel sur les aéroports. Alors, on est à l'idée de 50% pour l'instant. On sait qu'on ne peut pas aller à 100 tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans les kérosènes des gommes qui ont des effets colmatants dans les circuits de carburant. Si on ne colmate plus, il y a des fuites. S'il y a des fuites, ça ne marche pas. Enfin, donc, il va falloir trouver des additifs ou des choses comme ça, qui évidemment n'est pas de conséquences négatives pour la planète. Et d'après les constructeurs, en 2030, on devrait arriver à utiliser essentiellement des sustainable fuels. Ça veut dire 80% d'économie de rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est pas mal. Bon, je ne vous dis pas c'est le Pérou, mais je dis c'est pas mal. Et donc voilà, pas à pas, en travaillant sur l'hydrogène, en travaillant sur l'hybride, en travaillant sur l'électricité sous différentes formes, en travaillant sur les carburants sustainable, on devrait arriver à réduire sérieusement la trace du transport aérien. Sachant qu'en parallèle, les constructeurs font des progrès en termes d'aérodynamique, en termes de fabrication de moteurs, que des boîtes comme Airbus viennent de sortir un dispositif qui est assez impressionnant, qui est un dispositif d'aide à l'approche et à l'atterrissage qu'on va appeler propre et sage. C'est-à-dire que le système est capable de, en liaison avec le système de contrôle aérien, est capable de définir la trajectoire qui permet à un moment donné, pendant la croisière, de réduire complètement les moteurs, idle, ça ne veut pas dire les arrêter, ça veut dire les mettre sur ralenti, et d'aller jusqu'à l'atterrissage dans cette configuration-là. Donc ça veut dire que l'avion va se poser sans avoir remis de puissance, sans avoir donc consommé plus de carburant que nécessaire pour le ralenti, sans avoir rejeté des gaz, etc. Bon, ça, c'est en vente, tout de suite. On peut déjà le commander pour ces avions Airbus 320, Neo, 321 ou les autres modèles dès que ce sera disponible. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses qui se passent. Le monde de l'aviation s'est mobilisé. Il a compris que pendant un temps, il fallait qu'il offre de la sécurité. Il est arrivé à un niveau de sécurité absolument gigantesque. On a encore quelques accidents. Honnêtement, si on regarde bien à chaque fois, c'est toujours des situations très exceptionnelles qui ont amené à ces accidents, souvent des erreurs humaines, des combinaisons de situations qu'on n'a pas imaginées. Enfin, ils sont très, très rares. Bon, maintenant, le prochain objectif de l'aviation, c'est d'arriver, tout en étant encore économiquement viable, d'être propre. Elle est en train de s'équiper et de s'organiser pour devenir propre. Et vous verrez, je fais le pari avec vous, qu'en 2050, elle sera vraiment propre, ou probablement bien plus propre encore qu'elle ne s'y est engagée, non pas à la COP21, puisqu'il n'y avait pas d'engagement précis à ce moment-là, mais dans les années qui ont suivi la COP21.
Raymond Vosner, voilà des pistes encourageantes pour l'avenir.
Ah, complètement, oui. Et c'est vrai qu'on est fondamentalement sur un enjeu d'innovation. Il y a vraiment de la science dure là-dedans. Hein. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas très bien. Il faut vraiment lancer des programmes scientifiques, pas forcément avec une finalité directe. Hein. Après, il y a la recherche-développement, il y a des mobilisations industrielles, il y a les grands fabricants dont Michel Polaco parlait. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a plein de petites start-up là, qui commencent à faire parler d'elles.
Hein. Absolument.
Des gens dont on n'a jamais entendu parler. Hein, alors là, bon, il faut rester prudent, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des effets d'annonce, hein, parce qu'il s'agit de lever des fonds quand on veut se lancer. Donc, parfois, on vous annonce qu'on va décrocher la Lune assez rapidement. Mais une fois qu'on reste un peu prudent là-dessus, il est clair qu'il y a toute une série de nouveaux acteurs industriels qui sont en train d'émerger, dont l'aspect le plus impressionnant depuis quelques temps, c'est les avions-taxis autonomes, électriques, qui font la courte distance, bien sûr, hein, entre les aéroports et ou bien le centre-ville, ou bien vous avez les gens de Lyon, par exemple, en Bavière, qui annoncent des avions-taxis sur 300 km avec des volets électriques. Hein. Voilà, donc il se passe quelque chose d'inédit, quoi. En fait, on est sur une bascule, hein, comme on n'en a peut-être jamais connu dans l'histoire de l'aviation, hein, puisque il y a eu la boisson de l'hélice, hein, fondamentalement. Ensuite, il y a eu les jets qui sont arrivés à partir de la Deuxième Guerre mondiale et dans le civil à partir des années 50 et surtout 60 avec le Boeing 707, hein, bon, un petit peu la Caravelle aussi. Et là, maintenant, on est sur une nouvelle rupture, quoi, hein, quelque chose qui arrive une fois tous les 50 ans, en fin de compte, hein, ou à peu près. Et on est dans un monde nouveau, un monde différent, où vous pouvez vous lancer en réunissant des compétences là où on ne les attendait pas forcément.
Entre deux émissions, retrouver le MagaHero sur notre page Facebook.
Et c'est justement sur la page Facebook du MagaHero que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conférence aéronautique vers une nouvelle philosophie. Point d'interrogation avec donc Michel Polacco et Raymond Vosner.